Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 janvier. Évidemment, vous le savez, je ne suis pas toute seule à l'animation de cette émission. Salut Andy, comment ça va aujourd'hui ?
Salut Marie, ça va nickel et toi ?
Très bien, très bien, très heureuse évidemment de continuer cette émission et cette quatrième émission de la semaine où on va parler évidemment mobilité notamment dans le pays de Cran, où une grande enquête est proposée aux habitants jusqu'à la fin du mois pour un petit peu sonder, hein, savoir si vous prenez plutôt le vélo, plutôt à pied, plutôt la voiture aussi, ou bien les transports en commun. Et puis on va parler d'un autre sujet là aussi bien dans l'actualité, les déserts médicaux et notamment cette proposition de loi en ce moment même à l'Assemblée nationale sur les déserts médicaux, proposition de loi du député mayennais Guillaume Garot, qui nous expliquera justement les principales mesures et puis défendra aussi cette loi qui a été un petit peu critiquée, et puis pourquoi il veut la mettre en place, avec un point sur la situation en Mayenne. Et puis comme chaque jeudi, on va aussi poursuivre notre cycle de reportages pensées locales avec un reportage là aussi en Mayenne au château de Lignières que je vous laisserai écouter, qu'on vous laissera d'ailleurs découvrir en fin d'émission. Mais d'abord, évidemment, comme si vous en avez l'habitude, comme chaque jour, on va faire un petit point sur l'actualité avec toi Andy. Une semaine après leur mobilisation historique, les enseignants sont à nouveau en grève aujourd'hui.
Et oui, en Mayenne aussi, puisque selon les syndicats, l'assouplissement du protocole ne répond pas aux revendications exprimées. Avec le FCPE 53, ils appellent au rassemblement cet après-midi à 17h30 devant la préfecture de Laval, mais aussi à Mayenne, place Georges Clémenceau, ou encore à Château-Gontier, promenade de la Résistance.
Une mobilisation aussi des agriculteurs mayennais ce soir.
À l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, ils seront réunis devant la préfecture de Laval à 21h pour dénoncer la flambée des matières premières, la hausse des charges et une pression administrative de plus en plus lourde.
Yannick Favennec, le député du Nord-Mayenne, a reçu des menaces de mort par mail.
Il est hors de question de te laisser partir comme ça. Tu es poursuivi pour des crimes extrêmement graves pour avoir méprisé notre liberté avec tes votes. C'est un extrait du mail qu'a reçu Yannick Favennec. Il s'est exprimé par la suite sur Twitter. J'assume mes choix, mes actes, mes votes en tant que député. En revanche, qu'on s'en prenne à ma famille, jamais je ne l'accepterai. Il devrait porter plainte en fin de semaine.
Un incendie s'est déclaré hier soir dans un bâtiment agricole à Méral.
Et l'intervention des pompiers est toujours en cours ce midi. Le feu s'est déclaré peu avant 23h au lieu dit Le Gravier, dans un bâtiment agricole où étaient entreposés de la paille et du fumier. Les flammes ne se sont pas propagées plus loin dans l'exploitation.
Et puis l'arrêté sur le port du masque obligatoire en extérieur a été retoqué.
Le tribunal administratif de Nantes avait été saisi par un habitant du sud Mayenne et le juge a estimé que l'obligation décrétée par la préfecture de la Mayenne ne différencie pas suffisamment les zones de plus faible fréquentation et les autres. Selon le juge, le texte en l'état porte une atteinte disproportionnée et non appropriée à la liberté individuelle des personnes.
Et un accident a fait un blessé hier soir à Laval.
Il a eu lieu vers 17h, avenue de Tours. Selon les pompiers, 3 véhicules ont été impliqués dans un choc arrière. 2 conducteurs sont indemnes, mais un a été légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Laval.
Et puis cette question, à pied, à vélo, en bus ou en voiture, comment vous déplacez-vous dans le pays de Cran ? C'est l'objet d'une enquête menée jusqu'au 31 janvier auprès de 30 000 habitants de la communauté de communes. La mobilité fait partie, depuis mars dernier, des compétences de l'intercommunalité. Mais avant d'agir, un diagnostic s'impose. Dominique Guineux est premier vice-président du pays de Cran, en charge de l'aménagement du territoire et de la mobilité.
Alors on attend des retours qu'ils expriment leurs besoins, que ce soit sur la mobilité active autour des pistes cyclables, entre autres, mais pas que ça, autour des besoins de mobilité, que ce soit par car, à pied, ou que ce soit une notion de service auprès des personnes. Et ça c'est important, dans la mobilité on a tendance à penser que la mobilité c'est le vélo, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup le service à la personne, et ça c'est important, surtout dans nos communes rurales.
La particularité serait de ce territoire, et donc des mobilités ici, se passer de la voiture, c'est quand même très compliqué.
Alors c'est effectivement compliqué, on est dans un milieu rural comme on l'a dit. Pour autant, les habitants ont autant droit à des services que dans les zones urbaines, il n'y a pas de raison. Donc à nous d'aller vers les habitants, pour ceux qui n'ont pas les moyens de déplacement, à nous d'aller vers eux ou de leur apporter des solutions pour se déplacer. On a déjà des choses qui existent, hein. Ça peut être les sentiers pédestres, hein, les voies cyclables, hein, puisqu'on a une voie verte qui passe quand même à proximité. Il y a quelques projets à proximité des villes-centres qui existent déjà. Donc les villes-centres, c'est Cran, c'est Renazé et c'est Cossé-le-Vivien. Donc tisser des toiles autour des villes-centres de façon à avoir accès à la ville-centre et donc avoir accès aux services. Alors ce qui est important, c'est aussi qu'on communique sur ce qui existe, parce qu'il y a déjà aussi beaucoup de services qui existent, qui sont peut-être méconnus de l'habitant. Un car, par exemple, qui circule très bien entre Cran et puis Laval, et on a besoin de le faire savoir, parce qu'il y a des services qui effectivement existent, qui ne sont pas peut-être connus suffisamment des habitants. Donc à nous de relayer aussi l'information, avant aussi, bien sûr, d'en déployer d'autres. Les aires de covoiturage, donc voiture, mais demain on peut très bien imaginer des aires de covoiturage vélo, des box vélo qu'on appelle, sur le territoire qui peuvent se développer.
Cette enquête est disponible en version papier dans le bulletin intercommunal de décembre ou bien en ligne via un QR code ou un mail envoyé ces derniers jours. Une fois les infos récoltées, un schéma directeur des mobilités sur le sud Mayenne sera établi avec le pays de Château-Gontier et le pays de Mélégré, où d'ailleurs les habitants peuvent répondre en mairie ou en ligne à cette enquête également sur la mobilité jusqu'à la fin du mois. On va parler de cette proposition de loi de Guillaume Garot autour des déserts médicaux, juste après avoir écouté Anderson .Paak avec King James.
You're coming with me.
C'était Anderson .Paak, King James dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va se poser une grande question. Quelle solution pour les déserts médicaux? En tout cas, c'est ce qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale ce jeudi avec l'examen de la proposition de loi du député mayennais Guillaume Garot. Le texte avait été rejeté par la majorité la semaine dernière en commission, mais l'élu garde espoir pour le vote d'aujourd'hui. Guillaume Garot revient sur les deux principales mesures proposées dans le texte et sur la situation en Mayenne, troisième désert médical de France.
Aujourd'hui, il y a un problème de plus en plus grave de désertification médicale. On le voit dans notre département, mais on le voit dans beaucoup d'autres départements de France. Et on voit que les inégalités entre les départements, entre les territoires et donc entre les citoyens s'aggravent. Ça veut dire qu'il y a des territoires où on a tout ce qu'il faut en termes de présence médicale. Donc on trouve très facilement un rendez-vous chez le généraliste ou chez le spécialiste. Et puis d'autres territoires comme les nôtres, où ça peut devenir très problématique. C'est parfois la galère même, parce que vous avez votre médecin qui part en retraite, qui n'est pas remplacé, et vous peinez à trouver un nouveau médecin traitant. Ça, c'est la réalité en Mayenne. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai proposé face à ça? Deux choses. La première solution, c'est ce qu'on appelle le conventionnement sélectif pour stopper les inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'autorise plus l'installation d'un médecin généraliste ou spécialiste, dans les zones, dans les territoires où il y a déjà suffisamment de médecins. Première chose. Mais ça ne suffit pas à faire qu'il y ait des médecins partout, ailleurs. Bon, donc la deuxième proposition que je fais, le deuxième article dans ma loi, c'est une obligation de présence médicale pour les jeunes médecins, à savoir la dernière année d'internat et les deux années qui suivent l'obtention du diplôme, soit au total 3 années, pour qu'on puisse garantir à chacun qu'on sera bien accueilli chez un médecin. Et là encore, ça concerne les généralistes comme les spécialistes. Alors, c'est une mesure assez volontariste, en effet, hein, qui a suscité évidemment des débats. C'est bien normal et c'est sain qu'on ait du débat. Mais à tous mes collègues, j'ai dit à l'Assemblée nationale, écoutez, toutes les solutions que la majorité a proposées, elles auront de l'effet dans 10 ans. Hein, c'est quoi? C'est l'ouverture du numerus clausus. Très bien, on va former davantage de médecins, parfait. Mais ça ne garantit pas pour autant qu'ils seront répartis sur l'ensemble du territoire. Hein. Bon. Et puis, il y a aussi l'évolution des pratiques dans ce qu'on appelle des communautés de santé pour faire en sorte qu'il y ait des délégations de tâches de médecins vers les infirmiers et les infirmières ou vers d'autres professionnels de santé. Très bien, mais ce sont des évolutions qui sont assez lentes finalement. Et le problème, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions. Parce qu'on voit que le creux démographique pour la présence médicale, c'est-à-dire là, le moment où il y aura le moins de médecins en France, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 8 années. Et donc, si on ne trouve pas aujourd'hui des solutions qui pourront être durables pour ces 8 prochaines années, franchement, on va au-devant de graves difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette loi une loi d'urgence contre la désertification médicale, parce que c'est maintenant qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois qu'on crée une maison de santé, c'est très bien, parce que les médecins, les jeunes médecins qui s'installent aujourd'hui nous disent « nous, on veut travailler en équipe ». Donc, parfait. Eh bien, entendons ça et faisons en sorte qu'ils puissent travailler avec d'autres professionnels de santé. Mais vous savez, moi, ce que j'ai dit encore cette semaine devant mes collègues, et de la majorité en particulier, je leur ai dit, mais c'est très bien de faire des maisons de santé. On en a fait partout en Mayenne. Hein. Ça, on a un territoire très bien couvert en maisons de santé, mais il faut qu'il y ait des médecins. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait des médecins dans nos maisons de santé? C'est ça ma proposition de loi. Alors, c'est volontariste, mais moi je crois vraiment que, de façon fondamentale, c'est le contrat entre la nation et les médecins qu'il faut aujourd'hui refonder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nation, quand on réfléchit, elle finance les études des médecins, parce que ce sont des études gratuites. La nation, elle garantit les revenus des médecins à travers nos cotisations à l'assurance maladie, à la sécurité sociale. Donc, à mes yeux, il n'y a rien de choquant à ce qu'on se mette autour d'une table avec les médecins de France et qu'on dise comment on va trouver des solutions pour mieux répartir nos médecins qu'on a formés, qu'on rémunère, et c'est très bien parce qu'ils font un énorme boulot et qu'il y a une grosse pression sur eux. Mais voyons aujourd'hui comment on peut garantir à chaque Français l'accès à la santé, donc l'accès à un médecin. Aujourd'hui, ce droit-là, il n'est pas assuré et il est en train de s'étioler. Alors, ça reste à discuter et ça reste à discuter avec les médecins parce qu'il est question d'un contrat. Et c'est vrai, je l'entends et je le reconnais aisément. Un jeune interne en médecine, il fait un énorme boulot à l'hôpital. Il tient l'hôpital en général. Hein. Les internes, ils font tellement de travail. Mais c'est vrai aussi qu'ils sont bien peu rémunérés. Donc, il faut entendre ça. Et dans le contrat dont je parlais, sans doute faudra-t-il revaloriser la rémunération des internes en médecine. Pour moi, c'est légitime, bien évidemment. Mais je veux qu'on mette tout sur la table et qu'on refonde le contrat, c'est-à-dire les termes du contrat. Voilà. Qu'est-ce que chacun donne pour que la société aille mieux et qu'on réponde à ce droit fondamental d'accéder à la santé, d'accéder à un médecin. Ça, c'est issu de la résistance, en fait, hein, du siècle dernier. C'est l'idée même de la sécurité sociale. Où qu'on soit dans le pays, quelle que soit sa condition sociale, on a tous le même accès à la santé. C'est une très belle idée. Et aujourd'hui, cette idée, elle est finalement, de fait, battue en brèche. Donc, il faut se battre, nous, aujourd'hui, on est en 2022, pour que on retrouve pour chacun ce droit d'accès à la santé et à un médecin. Je pense que c'est à notre portée. Moi, j'ai vu la situation de l'hôpital de Laval, en tout cas les urgences, se dégrader semaine après semaine, mois après mois, après des fermetures, la nuit. Et quand on y regarde un petit peu plus près, on voit que les urgences sont saturées parce qu'il n'y a plus de médecins en cabinet de ville ou de campagne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de médecin? On se dirige vers les urgences pour être soigné. Et du coup, par effet d'entraînement, il y a une telle pression sur ceux qui sont aux urgences, les soignants, que le service, il est plus attractif. Ça veut dire que venir bosser aux urgences à Laval, ça devient difficile, très difficile. La pression est très forte. Hein. Il n'y a qu'à discuter avec tous ceux qui aujourd'hui, les soignants, les médecins, ils travaillent. Donc, si on veut soulager les urgences, donc leur redonner de l'attractivité, ça passe aussi, peut-être ça passe d'abord même, par traiter la question de la désertification médicale dans notre département. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à déposer cette proposition de loi, parce que je me suis dit, on est en 2022, il y a des échéances présidentielles majeures pour le pays. Et moi, j'en ai un peu assez d'entendre sur les ondes que le sujet prioritaire des Français, ce serait le grand remplacement, que ce serait la question des migrants. Hein. Il y a quand même d'autres questions qui concernent notre vie, voilà, nos fondamentaux. Et je considère que la santé, c'est un des fondamentaux de notre société française. Et donc, il faut aujourd'hui mettre ces propositions dans le débat public, de telle sorte que on puisse créer ce débat autour de ces propositions et que chacun fasse ses propositions aussi. Hein, j'entends que les candidats fassent aussi leurs propositions. Je considère que la santé, c'est un bien tellement précieux qu'on ne doit pas l'enfermer dans des clivages politiques. Et moi, évidemment, que je me réjouis du soutien d'où qu'ils viennent hein, sur ce texte. Et cette semaine, à l'Assemblée, les députés de la gauche, mais aussi de l'UDI, Yannick Favennec en tête, ont soutenu avec beaucoup d'ardeur le texte que je présente parce que finalement, on fait tous la même analyse et on aboutit tous au même résultat en termes de propositions. Malheureusement, la majorité n'a pas cette vision des choses, ne l'a pas approuvé, ce texte en tout cas en commission. Mais vous pouvez être sûr que je vais me battre pour que, en séance publique, on puisse convaincre. Alors, évidemment, c'est une bataille très difficile parce que nous sommes minoritaires à l'Assemblée. Mais je pense que ça vaut le coup qu'on ait un large débat pour aller au fond des choses et que les Français puissent être éclairés de ce débat et puis fassent ensuite, eux, leur propre choix. L'argument qui revient très souvent, c'est « Ah, les médecins ne seront pas d'accord ». Mais écoutez, nous sommes les législateurs. Donc nous sommes là pour faire la loi, et la loi, on ne la fait pas en fonction de telle ou telle catégorie. On la fait en fonction de l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui, c'est de répondre à ces 8 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin dans de bonnes conditions. Rappelez-vous, moi en Mayenne, j'avais organisé des ateliers citoyens sur la santé. On était en 2019. Et c'était passionnant, et ces solutions avaient toutes été discutées dans les ateliers citoyens. Il faut remarquer qu'en Mayenne, on est quand même un département innovant. Le centre Henri Dunant, vous savez, qui était à Laval, dans le quartier d'Hilard, qui accueille des médecins retraités et qui donne une matinée par semaine, une journée, pour faire tourner ce centre médical, c'est très bien, c'est une façon de pallier à l'urgence, hein. Mais pour autant, c'est une solution temporaire, une solution d'attente. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse avoir des solutions plus fondamentales. L'idée qui est venue au terme des consultations et des dialogues que j'ai eus avec les uns avec les autres, c'est de faire le constat suivant. C'est plus facile de venir s'installer dans un département rural quand on est soi-même issu du milieu rural. Et c'est plus facile de venir s'installer en Mayenne quand on est issu soi-même de la Mayenne. Mais j'ai fait aussi le constat qu'il y avait beaucoup de jeunes lycéens qui s'interdisaient de se projeter dans des études médicales parce qu'ils disaient « c'est trop long et ma famille n'a pas les moyens financiers de m'accompagner, même si les études sont gratuites, mais il faut quand même se loger, il faut se nourrir, il faut se déplacer, et tout ça a un coût ». Et donc, je me suis dit, si on avait un système de bourse nationale où on passe contrat, là aussi, avec un jeune au lycée, en lui disant, si tu choisis cette orientation vers la médecine, que sur le plan universitaire, tu passes les années les unes après les autres, et donc si tu deviens médecin, eh bien, nous, on est prêts à t'accompagner pour tous les frais de la vie d'étudiant, mais en contrepartie, eh bien, tu auras à t'installer là où on aura besoin de toi au terme de tes études, et dans ton département ou ta région. Eh bien, je suis sûr que ça, cette mesure-là, qui a une dimension à la fois sociale et territoriale, géographique, c'est de nature aussi à susciter une nouvelle génération de médecins qui pourra être très à l'aise en milieu rural, ce milieu rural qui fait tellement peur parfois, à écouter les discours, à certains jeunes médecins qui arrivent d'un milieu, beaucoup plus urbain, avec une autre culture, avec une autre façon de vivre. Et donc, je pense qu'en élargissant l'accès aux études de médecine, en démocratisant l'accès à la médecine, eh bien, on trouvera aussi une réponse à la désertification médicale.
Et à noter aussi que l'Association des citoyens contre les déserts médicaux invite tous les candidats à l'élection présidentielle à venir débattre sur ce sujet, évidemment, le 8 mars à l'Espace Mayenne à Laval. Cette lettre ouverte a donc été publiée il y a quelques jours. On va faire une pause en musique avec les Oracle Sisters, ascendant Scorpio, et on revient juste après parler du château de Lignières à Balai. c'était Oracle Sisters dans la JT du local sur l'autre radio. On passe comme promis à notre cycle de reportage Pensée locale qui s'arrête ce jeudi chez nous en Mayenne et plus précisément du côté du château de Lignières qui a été repris il y a 6 ans par Julien et Véronique Ostini. En plein dans les travaux, leur objectif à terme est de rendre le lieu accessible à tous mais aussi d'apporter la culture musicale en milieu rural. Reportage d'Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Allez, suivez-moi, nous sommes au château de Lignières à Balay en Mayenne, où nous retrouvons l'hôte de ces lieux, Julien Ostini, qui, avec son épouse, s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine, en s'appuyant sur l'existant, bien sûr, sur le patrimoine humain et culturel, et tout cela en local.
Alors là, on embarque sur le rempart, donc attention, on passe au milieu des broussailles. C'est des remparts 13e siècle, donc le rempart 13e siècle, comme il y a le contrefort de la Douve derrière, il n'a pas besoin d'être très élevé, il a juste besoin de dégager la ligne de tir. Et donc en fait, ils font normalement 3 mètres de haut, et ils sont larges de 5-6 mètres, et après ils sont plongeants dans la Douve. Donc c'était suffisant à être vraiment protecteur. Et en fait, au XVIIe siècle... Comme il n'y avait plus d'anglais et qu'on n'avait plus besoin de se défendre...
On avait réussi à les bouter hors de France.
Enfin. Donc on avait réussi à construire en fait tout le long une grande forêt de glycines et de rosiers pour faire une balade ombragée. Et puis tout ça a fortement disparu. Et nous, quand on a racheté la propriété il y a 4-5 ans, il n'y avait plus que des épines noires partout. Là, on aperçoit, on voit apparaître en fait la tour, une des tours de défense. Il y en avait 4. Là, c'est une tour 13e siècle. Un des piliers de Lignières, c'est aussi l'environnement naturel. Parce que comme on le voit, bon bah le rempart, il est pas nu. Il est plein de végétation, les douves aussi, nos murs.
C'est un vrai rempart habité.
C'est ça. Nos murs, les murs du château sont plus peuplés que nous à l'intérieur. Les toitures aussi, avec plein de chouettes, de chauves-souris. Et donc pour nous, c'est vraiment assez important d'essayer de préserver cet environnement. Et puis même d'améliorer, si possible, le biotope et tout ça.
Pensée locale, un enjeu de société.
Assez vite, on a eu ce projet de se dire il faut réenchanter nos relations au patrimoine. Et on s'est dit, ben, le patrimoine, c'est les vieilles pierres, les vieilles ardoises, mais c'est aussi le patrimoine naturel dans l'écrin dans lequel se trouve le château. Il y a le patrimoine humain, parce que tout ça, ça se construit autour de l'humain et avec l'humain. Et ça a aussi le reflet d'une époque où on vivait avec la terre, avec le temps, avec le silence aussi. La philosophie, la culture de l'époque et donc du coup le culturel. Bref, on essaye de faire un lieu de rencontre où on vient partager...
Et d'amener la culture au cœur des campagnes. Ça, oui, c'est une dimension importante pour vous, hein, je crois.
Ça, c'était vraiment...
Vous qui venez, je fais une petite parenthèse, vous venez de l'opéra d'Angers, de Nantes.
Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à l'opéra de Genève, oui, puis j'ai fait des productions à Angers-Nantes Opéra, et j'ai grandi à la campagne tout en étant baigné dans la culture. L'opéra, c'est le bon exemple, où, oui. Parce que vous n'allez pas vous mettre à vous dire, tiens, je vais prendre un TGV, puis je vais prendre une nuit d'hôtel, puis je vais faire garder les enfants, et puis je vais y mettre 500 euros pour découvrir, c'est vrai quoi. Donc l'idée là, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas réparer cette fracture territoriale et sociale et culturelle en inventant un modèle qui permette de faire de la musique classique, de l'opéra et d'autres formes de culture en milieu rural, comme si vous veniez à l'opéra, sauf que c'est l'opéra qui vient à vous. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comme on faisait l'opéra au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est tous ensemble, en faisant une grande fête, avant, pendant et après, donc aussi bien dans l'élaboration avec la population, les villageois autour des décors, des costumes, des projets, et le jour même avec tous ceux qui viennent. À l'époque, à la Scala, quand on allait écouter Verdi à la création, on venait avec son pique-nique, on s'installait par terre avec les enfants, on débouchait le rouge, on coupait le saucisson et on chantait les airs avec tout le monde. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à Lignières.
Et c'est un pari plutôt réussi. La population justement autour a super bien répondu.
Quand on a fait le premier opéra il y a 6 ans, Carmen, on s'attendait à avoir 300 personnes et encore, on se pensait mégalo. Et il y a 1600 personnes qui sont venues. Il y avait des embouteillages dans tout le village, à 5-6 km à la ronde. Et depuis, c'est vrai que chaque année, c'est un flot de 2000-2300 personnes qui viennent et qui sont vraiment les gens qui viennent à 15 km à la ronde.
Julien Ostini, vous avez parlé aussi des bénévoles qui s'investissent à Lignières.
C'est une énorme fourmilière où chacun a une place, en fait. Et on revalorise aussi le savoir-faire de chacun. Tout le monde a des savoirs, tout le monde a des compétences. Le projet Lignières est tellement vaste avec les vergers, les potagers, le patrimoine, que chacun a une place et une pierre à apporter à cet édifice. Et ça fait effectivement une super dynamique et ça donne une vie sur le lieu où finalement on est 350 bénévoles, ça devient une grande famille.
Et tout ça, c'est en local. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
De ce partage. Et le château de Lignières est accessible sur Facebook.
Sur Facebook ou sur Internet. Et puis après, à partir d'avril, on sera ouvert tous les jours. Donc c'est l'occasion de venir visiter et découvrir le lieu.
À très bientôt, Julien.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne.
Et oui, un reportage que vous pourrez réécouter comme tous les autres d'ailleurs depuis le début de ce cycle sur notre site l'autreradio.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. Salut Andy, à demain.
Salut, et non demain, je
et
suis
Et non, pas demain
congé.
Mais oui, on est déjà jeudi et vendredi, mais quelle idée, évidemment. Bah non, moi je voulais te garder aussi demain, mais non, évidemment, tu as quand même le droit à un week-end bien mérité. Donc bon week-end à toi, on te retrouve lundi, évidemment, pareil, à 12h15, toujours pour l'agité du local. Ça c'est pour Andy, Andy a le droit d'être en week-end, mais nous, évidemment, on poursuit aussi l'émission demain, vendredi. Avant ça, à 19h, il y aura Ta Chambre, une émission autour des enjeux féministes, autour de la parentalité. Ce sera suivi à 21h de All Blues consacré aux femmes dans le blues. Nous, on se retrouve quand même demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.